Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible et je vous propose que nous fassions une lecture dans l'Évangile de Matthieu. Alors, Évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 24. Et puis nous en ferons une autre très courte dans le livre des Hébreux, à la fin de notre Bible. Matthieu 14, 24. Alors, la barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Et puis je vous ai dit que nous ferions une autre lecture, une seconde lecture, dans le livre des Hébreux, simplement cette parole. Chapitre 12, verset 2, et nous allons retenir parce que je voudrais donner un sens particulier à notre première méditation, première lecture, dans ce sens que nous allons le découvrir à travers ce second texte. Chapitre 12, verset 2, il nous est dit « Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » Un autre texte nous dit « Ayant les yeux sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. » Ça c'est la traduction donc classique, et j'aimerais justement introduire, avant de revenir dans l'évangile de Matthieu, cette parole où nous avons précédemment, et bien dans le livre des Hébreux, à la fin du verset premier, il est dit « Courons avec persévérance dans la carrière ». Et je voudrais lui donner un sens peut-être plus étendu dans le plan de Dieu pour nous. De courir dans ou sur le chemin de la foi victorieuse, de courir avec persévérance vers les exaucements de la prière. On peut le traduire de cette manière, et il nous est bien précisé que cette carrière ou cette vocation que Dieu nous a donnée, eh bien elle nous est ouverte, ce n'est pas un chemin fermé, ce n'est pas quelque chose qui eh bien là est obstrué, mais c'est quelque chose qui est ouvert, c'est quelque chose qui nous est accessible et ayant les regards sur Jésus. Je prends par exemple l'athlète, je ne sais pas dans quelle discipline, mais enfin bon, on peut se l'imaginer. En tous les cas, eh bien un compétiteur dans le monde sportif, en tous les cas, il est déterminé à regarder dans le but ou vers le but. Et ça, c'est vraiment son objectif, d'une façon ou d'une autre. Et il ne se laisse pas distraire par toutes sortes d'événements ou toutes sortes de situations, mais il a les yeux fixés vers le but. Là, ce qu'il veut atteindre et là où il veut véritablement eh bien, gagner. Alors, je crois qu'on pourrait peut-être certainement illustrer notre propos ce soir, et si je peux me permettre de lui donner un titre, je lui attribuerai ces quelques mots, regarder droit devant soi. Ouais. Vous savez, on vit dans un monde avec toutes sortes de distractions, toutes sortes d'événements autour de nous qui peuvent nous faire perdre le sens et le but là où nous devons aller et l'objectif à atteindre. Et voyez-vous, dans la première premier verset, au verset 24, je vais le relire, il nous est dit qu'il nous est parlé de la barque dans laquelle Jésus avait demandé à ses disciples de traverser le lac de Génézareth ou la mer de Tibériade. Il nous est dit, la barque était au milieu de la mer et elle était battue par les flots car le vent était contraire. Ce que je voudrais en avant-propos souligner, c'est que dans ce court récit, celui de Matthieu, il y a profusion, l'avez-vous remarqué, il y a une profusion de verbes. C'est intéressant parce que quand on étudie le texte, on s'aperçoit que il y a 25 verbes dans l'espace de quelques phrases et des verbes directs ou indirects qui expriment l'action ou la réaction. Et ça, c'est intéressant parce que il y a des circonstances dans notre vie où nous sommes amenés à agir. Et puis, il y a d'autres situations dans lesquelles nous sommes amenés à réagir. Et nous allons mettre, si vous voulez bien, la foi au milieu de tout ça. Et c'est intéressant à prendre en considération parce que, quelque part, quel est notre comportement devant des événements, devant des imprévisibles, devant des situations que nous n'avions certainement pas pensées, que nous n'avions pas envisagées. C'était le cas de Pierre et puis également de ses compagnons dans cette situation particulière dont nous allons revenir quelques instants, sur laquelle nous allons revenir. Et nous voyons que ces verbes donnent tout son sens à l'histoire qui est devant nos yeux. Et vous remarquerez qu'à travers le verset 24 et le verset tout simplement 33, et nous allons remarquer une chose, c'est que tout commence dans le désordre, il y a une tempête, il y a un tourbillon, un ouragan, et tout se finit par la confession de la puissance de Dieu et dans l'adoration. Et ça, je crois que c'est le chemin dans lequel nous sommes appelés à vivre les uns et les autres, de commencer souvent, et Dieu vient nous chercher dans le désordre, il vient nous chercher dans la confusion, il vient nous chercher dans des situations qui nous frappent, prévisible ou imprévisible, telles que la maladie, l'accident, le chômage, quand ce sont des questions économiques ou des questions sociales, et bien d'autres choses, peut-être même sur le plan affectif. Alors, ça c'est très important de le souligner, parce que nous allons nous rendre compte que si nous gardons les yeux fixés sur Dieu, ou les yeux fixés sur Jésus, comme nous l'avons lu, de rentrer, de courir dans la carrière qui nous est ouverte, et d'avoir les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est lui qui donne la foi. C'est ce qu'il nous dit qui donne la foi. Et d'arriver à un moment donné où l'homme, comme Pierre, et comme les autres disciples, parce que c'est au pluriel à la fin du texte, là vont être tellement stupéfaits de ce que Jésus est capable de faire, qu'ils vont confesser sa puissance, ils vont confesser sa divinité, nous l'avons lu, tu es véritablement le Fils de Dieu, et ils vont l'adorer. Toute expérience dans laquelle Dieu nous conduit, c'est pour nous amener à reconnaître Dieu comme étant Sauveur, Seigneur et souverain sur toute chose, et y compris notre propre vie. Alors on va voir ça, il nous est simplement dit que le désordre se caractérisait à ce moment-là par la mer qui était en furie et dont la barque était battue par les flots. Et à la fin, c'est l'ordre qui revient. Nous l'avons souligné, ils montèrent dans la barque et le vent cessa immédiatement. Alors qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Qu'est-ce qui peut expliquer ce miracle qui va agir sur la nature? Et pas n'importe quoi, c'était une tempête, une véritable tempête, a effrayé certainement les marins les plus aguerris. Et vous savez, ça nous montre un peu ce que Paul nous dira et que nous mémorisons parce que nous connaissons bien ce texte, quand il est dit dans Romains que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, en d'autres termes, qui font confiance à Dieu sans le voir, mais qui croient, même s'il ne le voit pas, que c'est Dieu qui est agissant et opérant pour nous dans notre vie, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son plan. Comme nous l'avons vu, la carrière nous est ouverte, de courir dans cette dimension, dans ce chemin. Et c'est très intéressant. Alors, nous voulons commencer par ce verset 24 et nous parlerons des violences imprévisibles de l'existence. On a un passage qui nous est relaté dans un psaume fameux. C'est le psaume 107, hein, et où il est bien décrit finalement cette situation de ceux qui vont sur les mers, de ceux, il n'y a rien de plus instable que la mer, hein, encore quand on marche sur le sol ou sur les montagnes, hein, ou là où nous sommes ce soir, on a peu de chances de voir d'être engloutis dans un tremblement de terre, parce que nous sommes des terriens et des terrestres, hein, on a bien les pieds sur terre, mais sur l'eau, sur un bateau, sur un navire, dans une tempête. C'est beaucoup plus aléatoire pour nous qui ne sommes pas des poissons. Hein. Et il nous est rapporté cela au psaume 107. Je lis simplement les deux premiers versets dans le verset 24 et 25. Il nous est dit donc tout simplement, ceux qui étaient descendus, verset 23, ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Et nous voilà qu'il nous est dit, Dieu dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Alors, là nous sommes un petit peu déconcertés parce que est-ce que Dieu permettrait, c'est la question que nous pouvons nous poser, des désordres, des ouragans, des calamités, des drames dans la vie des hommes? Si nous en tenons à ce texte, eh bien nous pouvons croire que c'est une vérité. Mais quand Dieu conduit un homme, ou conduit des hommes, à prendre de tels risques, c'est que Dieu va les accompagner. Dieu ne se débarrasse pas de nous, hein, en disant « il les envoie à la mort ». C'est pas ça. Dieu est le Dieu de la vie. Et ça, c'est quelque chose de rassurant et qui est susceptible de fortifier notre foi, de savoir qu'à chaque fois que je rentre dans une situation complexe, difficile, quelquefois qui peut m'effrayer, eh bien, je dois toujours me dire que si cela est permis, je ne suis pas tout seul et que Dieu m'en délivrera. Il faut s'en souvenir, parce qu'on perd vite, finalement, eh bien, la mémoire de ces choses qui sont écrites dans la Bible. Et puis, vous l'avez vu, parce que nous n'avons pas lu tout à l'heure le texte en entier, mais dans le même texte de Matthieu, il nous est dit qu'après la multiplication des pains, Jésus est resté sur la montagne et il nous est dit qu'il a obligé ses disciples à monter dans la barque. Donc, encore une fois de plus, et j'insiste ce soir, quand il arrive quelque chose dans notre vie, si un temps soit peu nous croyons à l'existence de Dieu, je dois me dire et je dois me conforter que si telle ou telle chose est permise par Dieu, c'est qu'il m'en sortira et il me délivrera. Quelquefois, nous sommes les auteurs et les artisans de nos propres difficultés. Parce que nous avons fait les choses témérairement, nous avons commis des erreurs, des fautes et tout cela. Mais peut-être faudra-t-il sortir de nos erreurs et de nos fautes par un cheminement avec le Seigneur et lui marchera devant nous et la seule chose que nous avons besoin, c'est d'avoir les yeux fixés sur lui. En tous les cas, le cœur fixé sur sa parole, comme il l'a fait dans cette circonstance. Alors au cœur du tumulte, il y a pour les hommes comme un sentiment d'être en prison. Parce que nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes souvent pris au dépourvu, nous regardons à droite, à gauche, en haut et en bas, et on se dit, mais comment vais-je m'en sortir? Je suis sûr que, au moment où je suis en train de vous parler, il y a des millions et des millions de gens, et je n'exagère pas, qui sont en train de se poser mille et une questions pour savoir comment ils vont se sortir de la situation dans laquelle ils sont. Ils sont en prison, en quelque sorte. Et les issues de ce genre de prison, que ce soit la maladie, que ce soit quelques infortunes d'un genre ou d'un autre dans la vie des hommes, si nous regardons à la terre, nous ne nous en sortirons jamais. Mais il y a une chose, c'est qu'il faut regarder vers le ciel. Et ça s'appelle la prière. Ça s'appelle véritablement, eh bien là, faire confiance à Dieu. Et pourtant, si vous regardez, dans le ciel, c'est vraiment le grand vide. Mais ce que nos yeux ne voient pas, notre cœur peut le trouver. C'est-à-dire que nous pouvons rencontrer Dieu et nous pouvons le trouver. Donc, au cœur de ce tumulte. Il nous est précisé à travers cet adjectif, il nous est dit que la barque était battue, c'est-à-dire qu'elle était secouée, elle était ballottée, elle était sans contrôle en quelque sorte. Et pourtant les gens qui étaient dessus, Jésus les connaissait bien, c'est lui qui les avait choisis par surcroît. C'était des matelots chevronnés. Je pense qu'un homme comme Pierre, Jean ou Jacques, ils en avaient vu des tempêtes. Ils en avaient vu des coups de tabac. Ils en avaient vu le déchaînement finalement de ce lac de Tibériade. Et ils en perdent des pieds. Quelquefois, nous avons vraiment le sentiment d'être perdus. On se dit, mais c'est fini, c'est terminé. Alors la raison de tout cela, c'est que les vents étaient contraires. Il y a des vents favorables dans la vie. Et puis il y a des vents qui sont contre nous, qui montrent bien qu'il y a une opposition. Et derrière l'opposition, il peut y avoir aussi l'ennemi. Vous savez, l'ennemi, vous le connaissez. Hein, c'est pas l'homme, mais c'est celui qui est l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes, donc créature de Dieu. Et lui, il s'ingénie à trouver toutes sortes de situations pour mettre la créature de Dieu que nous sommes dans la difficulté et l'amener à perdre pied. Et maintenant, il faut savoir aussi, peut-être le dire au passage, il faut savoir discerner quelle est la nature de ces vents contraires. Il y a des vents sur lesquels nous avons soufflé et qui nous reviennent, dont nous sommes les auteurs, et nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous. Parce que c'est vrai qu'il y a quelquefois des retours de flamme dans la vie. Mais il y a des situations, je pense à Job en d'autres termes, qui lui s'est battu pendant des semaines, pendant des mois, voire peut-être des années, contre un vent invisible. Quelque chose de terrible, et c'était quelque chose de très très pénible pour lui. Mais nous savons ce qui s'est passé. C'est que il y avait cet ennemi qui a soufflé sur son existence pour l'amener à maudire Dieu dans la souffrance et dans la douleur. Alors qu'est-ce qu'il nous est dit aussi? Je reviens toujours au psaume 107. La suite, quand il est question de discerner quelle est la nature des vents, et puis quand on est secoué et ballotté, eh bien, la suite du psaume 107 nous répond à cette question. Il nous est dit qu'il montait vers les cieux, verset 26, il descendait dans l'abîme et leur âme était éperdue en face du danger. Saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. L'homme le plus fort, nous dit ce psaume, quelquefois devant certaines situations ou circonstances de la vie, ne sait plus quoi faire. On est complètement démobilisé. On est désorienté et déconcerté. Alors, le mot désorienté, ça veut nous dire, et ça marque quand même, l'orientation. C'est pour ça que je reviens sur cette parole, les yeux fixés sur Jésus. Celui qui n'a pas la boussole spirituelle ne peut pas savoir s'il doit aller à droite ou à gauche. Mais il y en a un qui peut nous conduire. C'est pour ça que la force de ce message que nous avons dans Hébreu, de courir, donc c'est ne pas perdre de temps, dans le chemin qui nous a été ouvert, vers l'exaucement promis, vers la victoire de la foi, mais avec les yeux fixés sur quelqu'un, fixés sur celui qui nous précède, celui qui a ouvert la porte, celui qui a ouvert la carrière et qui saura nous faire sortir si tant est vrai que c'est Dieu qui a permis ça dans notre vie. Lui, il connaît la porte d'entrée et il connaît la porte de sortie. Alors, on comprend un peu ce que nous dit, il nous est parlé de ces matelots qui étaient éperdus dans la tempête. Il y a de quoi, quelquefois, dans la vie humaine, à travers tous ces drames, tout ce que nous entendons, nous sommes abreuvés tous les jours, ici ou ailleurs, de voir combien il y a de souffrance sur la terre. Comment faire? Moi, je pense à tous ces malheureux qui sont persécutés en Syrie, à ceux qui sont là près de l'affrontement, par exemple, dans ce pays qui se déchire qu'est l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et quelquefois on se dit, mais tout cela, et il y en a tant d'autres comme cela, hein, ce n'est qu'un exemple au passage. Si nous allons plus loin, il nous est simplement rapporté dans le texte par Matthieu à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3h et 6h le matin, donc quand la nuit est bien avancée naturellement, hein, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et ça, c'est intéressant. Imaginez-vous, la nuit est une des plus sombres, la nuit noire, une nuit d'angoisse pour ces hommes pourtant habitués à la navigation, qui ont perdu pied, qui n'ont plus de repères, qui sont là dans une angoisse et dans un effroi indescriptible. Et voici le paradoxe. Dans cette nuit noire, dans cette nuit d'angoisse, le paradoxe est celui-ci. Une lumière paraît. Il nous est simplement dit, d'une manière très lapidaire, Jésus alla vers eux, marchant sur l'eau. Et vous savez, je crois qu'il ne faut pas se départir lorsque nous connaissons bien la parole de Dieu et ce que Dieu est capable de faire. C'est qu'il y a les deux, comme un contraste, comme une opposition. Il y a la mort d'un côté, il y a la vie. Il y a l'obscurité, les ténèbres, et il y a la lumière. Quand on reprend le texte, ça nous saute aux yeux, il nous est dit à la quatrième nuit de la vie, là où c'est le plus sombre, là où il n'y a plus d'espoir, là où on ne voit plus rien, puisque la nuit est tellement, tellement épaisse, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Pour nous dire que nous ne sommes jamais abandonnés si nous avons des yeux pour voir, mais les yeux de la foi, naturellement. Mais ils ne l'avaient pas encore reconnu, hein, les disciples, à ce moment-là. Mais vous savez, tout ce qui est étrange, tout ce qui ne rentre pas dans notre raisonnement, nous angoisse. Et très souvent, dans les histoires bibliques, il y a là des manifestations de Dieu pour venir au secours des hommes, et les hommes se méprennent en pensant que c'est Dieu qui les condamne, c'est Dieu qui les châtie, c'est Dieu qui va les faire mourir. Parce que nous ne comprenons pas, et cela fait craindre. L'inexplicable, l'irrationnel, ça trouble les cœurs. Nous avons maint exemple, hein, que je ne vais pas vous citer ce soir, mais je crois que c'est toujours les deux qui sont là en présence et qui s'affrontent. Pour dire tout simplement que l'homme n'est pas habitué au surnaturel. Et pourtant, on reviendra sur la question, mais pourtant, l'homme s'étonne de voir un miracle. Alors que dans cette création, tout est miracle et on ne devrait pas s'étonner. Vous voulez savoir que tout est miracle dans ce monde? C'est curieux, hein? Bien écoutez, regardez le souffle qui nous anime. Regardez l'équilibre qu'il y a dans l'univers des planètes. Regardez le fonctionnement du corps humain. C'est un miracle. Regardez les saisons qui se déroulent pour apporter de la nourriture aux hommes. Regardez tout ce dont l'homme a été doté par d'intelligence et de capacité par le génie créateur, et c'est un miracle. Les pluies en son temps, le soleil, la chaleur, le froid, et toutes sortes de choses. Si l'on considère seulement les hommes, les animaux, les fleurs, mais c'est un miracle. Et les hommes s'étonnent du miracle et ont peur du surnaturel. Mais nous sommes des êtres enfermés dans la matière, mais nous vivons dans un univers qui est avant tout mené par l'esprit. Il faut le savoir. Et si l'Évangile et si la Bible nous a été léguée, si nous sommes interpellés à écouter ce message, c'est pour nous donner la véritable origine qui est la nôtre. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas que de la matière qui disparaîtra à un moment ou à un autre, mais nous avons une âme et un esprit. Et tout cela, c'est fait pour nous dire, mais Dieu dit aux hommes, mais levez un peu les yeux, ouvrez votre cœur, considérez tout ce qu'il y a autour de vous. Nous ne sommes pas un accident dans un univers d'accidents. Nous sommes des créatures. Nous sommes sortis et nous émanons de ce souffle de Dieu. Ah, qu'est-ce que l'homme est incrédule, hein ? Qu'est-ce qu'il est borné pour ne pas vouloir comprendre, lui qui prétend qu'il descend du singe, qu'il descend du poisson, du dinosaure ou de tout ce que vous voulez, que nous étions une simple petite bactérie il y a des milliards et des milliards d'années ou des millions d'années. Écoutez, l'homme c'est plus que cela, non? Alors, les yeux fixés sur Jésus, c'est lui qui va nous conduire dans la révélation de sa connaissance, dans sa volonté et de nous montrer que nous sommes plus qu'un passereau et nous sommes plus qu'un lys des champs. D'accord, hein? Alors, c'est ce manque d'habitude au surnaturel. Pourtant, Dieu se présente comme étant le maître et le souverain de la nature et du monde qu'il a créé. Le verset 26 est là pour nous l'attester. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. C'est exactement ce que je suis en train de vous laisser comprendre, que quelque part le surnaturel, eh bien, nous effraie. parce que ça nous fait peur, pour nous dire que nous sommes si petits et si fragiles. L'homme qui gonfle la poitrine, l'homme qui se dit « c'est moi et moi et moi et moi seul », l'homme qui veut conquérir le monde, l'homme qui pense qu'il va tenir l'univers entre ses mains, si petit et si fragile, il n'est qu'un souffle qui passera. Parce que jusqu'ici, personne n'est resté. Et même les plus vaillants, même les plus forts, même les plus intelligents, les plus puissants de ce monde, parce que nous sommes très impressionnables. Eh bien, nous sommes impressionnables par les œuvres dont nous sommes capables et les œuvres souvent mauvaises dont nous sommes capables, mais par contre, nous ne nous laissons pas impressionner quand Dieu nous parle. Nous nous laissons difficilement impressionner par l'Évangile et sa parole et par la personne de Jésus. Alors, il nous est dit qu'ils ont été saisis de frayeur et ils poussèrent des cris. C'était pourtant des adultes, c'était pas des enfants. C'est pour vous dire que ça tanguait sur le plancher de la barque. Quelque chose, pour nous montrer où est la prétendue force humaine, cette force qui est vaniteuse et orgueilleuse, vanité comme le souffle du vent. Ouais. On comprend qu'il y avait un vent contraire, mais c'était pour contrer justement ce vent contraire, c'était pour contrer la vanité et toutes les prétentions orgueilleuses humaines. Alors on va aller un peu plus loin, verset 27 nous dit « Jésus leur dit aussitôt, il ne les laisse pas attendre, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Une parole qui rassure, c'est bien celle de l'Évangile. Pour autant que nous voulons être attentifs et prêter l'oreille, ouvrir notre cœur à cette parole de Jésus, trois mots, si vous en souvenez, eh bien c'est le principal. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Peut-être que vous avez besoin de l'entendre ce soir. Rassurez-vous. Vous avez des préoccupations, vous avez des projets, vous avez peut-être une inquiétude, ou un tracas, ou un gros souci, peut-être une angoisse, je ne sais pas. Qu'est-ce que nous dit Jésus? Si vous êtes venu ce soir, c'est peut-être qu'il y a des raisons. Qu'est-ce qu'il vous dit? Rassurez-vous. Ça passe par ma bouche, mais c'est Jésus qui le dit, et qui le dira jusqu'à la fin des temps. Rassurez-vous, c'est moi! Notre Créateur serait-il un inconnu? Oui. Ou en tous les cas, s'il n'est pas inconnu, il est méconnu, ou mal connu, ou tout simplement, eh bien, rejeté dans ce qu'il est. N'ayez pas peur, dit Jésus. Mais, à propos, qui est Jésus? Tout le monde a sa version, sur les choses. Du théologien, du savant, jusqu'à, peut-être, là, l'homme primaire. Que fait-il Jésus? Souvent on y ajoute avec parfois de l'énervement et de la colère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Où est-il? Encore des questions. Et que dit-il? Eh bien il ne dit pas plus que ce que je viens de dire. Rassurez-vous, c'est moi. Pour reprendre pied, même s'il y a un tourbillon, s'il y a une tempête sous vos pieds, il nous dit, mais c'est moi, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Nous sommes dans un monde perdu, un monde égaré au milieu de l'océan, au milieu du monde en furie. Et quelle tragique ignorance! Mais si l'homme savait qu'il ne sait rien, mais le malheur, c'est qu'il pense qu'il connaît quelque chose et il veut tout expliquer. Et la foi, la souveraineté de Dieu, le pouvoir bienveillant de Dieu, son amour, ne s'explique pas. Il se vit. Il se croit pour être vécu ensuite. Parce que si nous avions un tant soit peu la connaissance d'un Dieu sauveur, cela nous rassurerait. Et cela rassurerait le monde. Mais peut-être que l'on met sa confiance dans bien d'autres choses. Poursuivons. Pierre, à ce moment-là, lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux. » Voilà un homme courageux. Comme vous avez l'habitude de marcher sur les eaux tous les jours, je vous apprends rien. Oui, comme il pleut beaucoup, vous marchez sur les eaux. Mais vous avez le macadam en dessous les pieds. On prend pas de risque. Mais là, il s'agissait de marcher sur un lieu ou sur un endroit, ou dans un endroit tellement inhabituel aux hommes, c'est-à-dire sur la mer, ou sur le lac. Imaginez-vous, Il suffit de penser qu'il y a peut-être encore 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres en dessous de vos pieds. On n'a pas les jambes assez longues, hein, ça c'est certain. On n'a pas pied, naturellement. Alors, quand Pierre va poser cette question, tout simplement, il va dire, mais si c'est toi, puisque Jésus avait dit, c'est moi. Là est démontré ce que l'on pourrait appeler la folie de la foi. Vous savez que la foi, c'est une folie. Il y a des gens qui pensent que les croyants, ce sont des dérangés du cerveau, que nous avons les neurones un petit peu endommagés. Hein? C'est que tout simplement, nous voyons ce que les autres ne voient pas. Sans prétention, hein, sans vanité. C'est que Dieu a mis dans notre cœur des autres yeux que ceux de notre tête. Les yeux du cœur. Les yeux de la foi. Qui nous permet de rentrer dans une dimension inconnue et refusée par les autres parce qu'ils se disent « ils sont fous », mais qui nous montre à l'évidence que si nous marchons dans cette carrière qui nous a été ouverte, les yeux fixés sur Jésus, alors à ce moment-là, nous pouvons atteindre le but. Et nous verrons, nous comprendrons, nous connaîtrons et nous vivrons ce qui échappe aux autres. Alors Pierre est un homme qui a des yeux dans son cœur. Et il dit, mais si c'est toi, puisqu'il avait déjà été rassuré, rassure-toi, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Ça suffit, ces quelques mots ont suffi à Pierre, tout simplement, eh bien, de faire le geste de folie, d'avoir ce comportement fou, de passer un pied par-dessus le bastingage de la barque, et de passer le deuxième, parce que tant que vous avez encore un pied qui touche, ça va. Et en plus, une barque qui était comme ça. Imaginez-vous l'équilibre. Hein. Il s'est mis dans une situation, mais alors, terrible. Parce que fallait le faire. On aurait dit, mais il est bon pour l'hôpital psychiatrique. Hein. Ça veut dire, Jésus dit, Pierre dit à Jésus, si c'est toi, alors ordonne. C'est-à-dire, donne une parole. Je ne le ferai pas sans que tu me le dises. Je le ferai parce que tu vas me donner la parole qui va convenir à soutenir ma foi. Et là, c'est quelque chose d'important, ce que nous allons dire. Dieu ne nous demande pas d'être des hommes téméraires qui essayons tout et n'importe quoi. La vraie foi, la foi spirituelle, elle s'appuie sur ce que Jésus nous dit. Parce que Jésus me dit ceci, il me le dit dans mon cœur, il peut me parler à travers une prédication comme ce soir, il peut me parler dans d'autres circonstances où je sens que c'est Dieu qui me parle, alors à ce moment je peux lui faire confiance, parce que je marche sur un chemin qui est solide, un chemin dans lequel il va m'accompagner, et même plus que m'accompagner, il va pas marcher à mon côté, il va marcher devant moi pour que je puisse avoir les yeux fixés sur lui. Et là je ne m'égarerai pas, je ne capitulerai pas, je ne chuterai pas. Alors ordonne et j'obéirai. Parce que vous savez, le grand allié de la foi, c'est l'obéissance. Si je dis que je crois, je vais faire ce que je crois. Parce que si je ne fais pas ce que je crois, ça ne sert à rien. Ce sont des blablabla. Mais Pierre nous l'enseigne. Il nous dit, mais alors à ce moment-là, tu parles, j'obéirai, parce que c'est toi qui me le dis. Et c'est un grand pas, hein, qu'il a fait. Parce qu'il sortait du naturel, qui pouvait encore représenter une sécurité dans cette coquille de noix qui était balancée de droite et de gauche, pour aller finalement à l'aventure, parce que c'est pas fait pour les hommes de marcher sur l'eau. C'est vraiment le miracle de Dieu, je veux dire, c'est le prodige de Dieu. Et figurez-vous qu'il l'a fait, et ça marchait, façon de parler. Ça fonctionnait. Sortir, marcher, aller vers avec l'assurance, cette certitude en celui en qui nous pouvons faire confiance totalement, et Jésus va lui répondre un simple mot, « Viens ». Si ce soir le Seigneur nous prend au mot, dans un problème ou un autre, c'est peut-être pas celui de la tempête, dans une barque, sur un lac déchaîné, à travers toutes sortes de choses, mais peut-être une vie qui est en tempête, moi je ne le sais pas. J'ai vraiment eu à cœur cet après-midi de parler comme ça. Vraiment. Ah oui ? J'ai eu la pensée cette nuit, vous comprenez ? Parce que normalement, pendant que tout le monde dort, moi, je pense, quand je dors pas. Mais toujours est-il que j'avais à cœur, pourtant, ce message, je l'ai prêché 80-100 fois. Hein. Et il y a peut-être quelque chose. Il lui dit, viens. Si c'est toi, alors viens. je vais vers toi. Et vous savez, il est dit cette belle parole que quand nous mettons notre confiance en Jésus, nous ne serons jamais déçus ni confus. Viens, le verset 29 le dit. Viens, Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il n'a pas été vers quelqu'un d'autre. Il n'a pas été vers le fantôme dont nous avons parlé tout à l'heure. Ils nous ont dit qu'ils avaient l'illusion d'avoir vu un fantôme. Non, là, il avait débarrassé un peu tous ces spectres terrifiants et effrayants. Mais il est allé vers Jésus. Il savait vers qui il allait. Et quand on a l'assurance que nous allons vers Jésus, que nous allons à Dieu, que nous allons vers Dieu, mais il n'y a pas de problème. J'essaie d'y mettre les mots et les formes pour vous amener vraiment à grandir dans la foi. Je ne sais pas si j'y arrive, hein, mais mes paroles sont insuffisantes. Moi, je crois que le Seigneur est capable de le faire par le Saint-Esprit qui est en train de travailler en vous. Et Dieu vous dit, viens. Viens, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte. Et là, nous touchons ensuite, dans le reste du récit, la faiblesse occasionnée par le doute des hommes. Mais voyant le vent qui était fort, il eut peur, Pierre eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Voyant. Et on va mettre en parallèle ces deux visions. Vous savez ce qu'on disait ? Les regards fixés sur Jésus. Les regards, le regard du cœur, les yeux du cœur. Et là, tant qu'il a marché, les yeux fixés sur Jésus qui marchait sur l'eau, et lui qui allait le rejoindre tout en marchant comme Jésus sur l'eau. Mais le problème, c'est que de ses yeux, de son cœur, qui l'ont fait fonctionner d'une manière tellement inhabituelle, c'est un miracle. Il a vite repris le dessus. Notre nature prend le dessus. Nos craintes reprennent le dessus. Nos peurs, nos inquiétudes, nos tracas reprennent le dessus. C'est pourquoi il est marqué « Voyant le vent ». Voyant le vent. Ben moi, je ne sais pas ce qu'il a vu, parce que le vent, c'est invisible. Si nous croyons à la force du vent, qui est invisible, nous en avons les effets, nous devrions aussi pouvoir croire à la force toute puissance de notre Dieu, qui est aussi invisible. On met les deux en parallèle, hein. Alors c'est à nous de choisir, parce que le vent est invisible, il est impalpable le vent, il est insaisissable, il est simplement ressenti, et c'est bien le problème de Pierre. Il avait les yeux fixés sur Jésus, ça marchait, il était en train de marcher d'une manière extraordinaire sur l'eau, mais il a ressenti. Et méfions-nous de nos impressions et de nos ressentis, parce que nos ressentis peuvent nous faire couler au lieu de nous faire avancer. Nous sommes des êtres avec une âme. Nous sommes des êtres charnels. Nous avons là, eh bien, en fonctionnement, une volonté, une intelligence, une réflexion, des pensées, toutes sortes de choses. Et ça fonctionne à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est incompatible si véritablement, eh bien, nous prétendons marcher par la foi. Il va falloir que notre intelligence, notre volonté, nos ressentis, nos impressions, nos sentiments, notre affectivité soient soumises au Seigneur à ce moment-là. Et c'est lui qui va les maîtriser. Ça nous évitera de tomber dans les pièges du doute, ou voire même de l'incrédulité, de la crainte et de la peur et la panique, de l'angoisse. Ah oui, il a ressenti. Voyant ou croyant, on pourrait le dire comme ça. Voyant ou croyant, toute la différence est là. Marchant sur l'eau ou coulant, finalement, au fond de l'eau. Parce que le vent était fort, tout simplement. Alors, la question qui peut être posée maintenant, qui doit être le plus fort? Est-ce que c'est mes impressions? Est-ce que c'est mes sentiments? Est-ce que c'est mon raisonnement? Est-ce que ce sont mes analyses? Mes déductions? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui me dit « viens » Parce que si Dieu me dit « viens », c'est qu'il va me tenir. Et il me conduira jusqu'au bout. Mais en lui donnant la main, c'est une vue de l'esprit, en lui donnant la main et en marchant à sa suite, si je me replie en moi-même et je me pose ces questions, mais Seigneur, est-ce que tu es sûr de toi? Le Seigneur va nous répondre, hein. Il n'y a aucun problème. Ou il ne nous répondra pas, parce que lui, il est sûr de lui. Mais c'est que nous ne sommes pas sûrs de lui. Et parce que nous ne sommes pas sûrs de lui, eh bien, nous retombons dans notre misère personnelle, et c'est là que nous allons couler. C'est ce qui s'est passé. Il nous est dit, Voyant le vent qui était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, vous savez, ça se fait dans quelques secondes, ça. Hein. C'est pas... Ça s'est fait d'un seul coup. Hein. Il s'est arrêté net, en quelque sorte. Hein. C'est ça, le grand problème. Alors, c'est toujours cette dominante naturelle qui reprend ses droits dans notre vie. Le dernier espoir, pour ne pas sombrer, pour ne pas faire naufrage, c'est le verset 30, et au verset, à la deuxième partie, quand il est dit ceci, « Il s'écria, Seigneur, sauve-moi !» C'est la prière, figurez-vous, de la détresse, qui n'est que la reconnaissance de notre faiblesse. Parce qu'autrement, si nous étions forts, eh bien, il n'aurait pas demandé à Jésus de le secourir, parce que je pense qu'il savait nager. Mais il y avait de fortes chances que même si Pierre savait nager, il n'aurait pas été jusqu'au rivage, compte tenu de l'amplitude de la tempête et du désastre. Ouais. Tout simplement, c'est reconnaître notre faiblesse et notre impuissance. Alors, à ce moment-là, cette prière de détresse va libérer l'action surnaturelle de Dieu. Il nous est dit que Jésus a étendu sa main, qu'il l'a saisie, et ensuite il lui a dit quelque chose. Il lui a dit quelque chose. Cette parole qui peut-être nous est attribuée et qui sera attribuée à tous les hommes à travers tous les temps, il lui dira « Mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce drame qui se joue entre la vie, la dimension de l'esprit et la dimension de notre âme, c'est ça la grande discussion, c'est ça le gros problème. Dieu ne nous a pas demandé d'être religieux, d'être superstitieux, avec toutes sortes de ressentis, il nous a demandé d'être spirituels et de croire à sa parole. C'est la vie de l'esprit, ça. C'est la foi qui est animée par l'esprit. Cette main étendue, il l'a saisie et lui a dit cette parole. Cette triste et humiliante vérité, homme peu de foi. Et pourquoi as-tu douté? Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. On peut toujours jeter la pierre. Enfin, façon de parler à Pierre. On pourrait lui dire, dis donc, non, je pense que ce serait déraisonnable de penser ça. Une chose qui est certaine, c'est que Pierre a été courageux quand même. C'est parce qu'il aimait le Seigneur. Et il avait confiance en lui. Mais dans ces circonstances, combien notre nature reprend le dessus rapidement? On l'a tous vécu les uns les autres, on le voit aussi chez certains. Ils viennent dans les réunions, ils viennent, ils sont mal. Ils ont des problèmes, des difficultés, on prie pour eux. Il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. Quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Puis à un moment donné, hop, ils reviennent en arrière. Ils se disent, mais voilà, j'ai eu peur, j'ai ceci et cela. Et ils laissent échapper, finalement, eh bien, le bénéfice de ce qu'ils ont reçu. C'est pourquoi il nous est dit, ayant les yeux constamment, en permanence, fixés sur Jésus. Tant que nous suivrons Jésus, tant que nous écouterons sa parole, tant que nous mettrons dans notre cœur sa parole et que nous la garderons, eh bien, nous marcherons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous atteindrons le but, il n'y a aucun problème. Et c'est pourquoi je termine par ces deux citations dans le livre des Hébreux. Là aussi, vous connaissez la première, on l'a lue il y a un instant, mais on va lire une autre. Il nous est dit dans Hébreux chapitre 11, vous connaissez, « Or sans la foi, ce n'est pas une question de croyance, ce n'est pas une question de superstition, ce n'est pas une question d'appartenir à une église ou à une autre, mais il nous est dit, sans la foi, il lui est impossible de lui être agréable. Ce que Dieu apprécie, ce que Dieu attend, ce que Dieu souhaite et désire de chacun d'entre nous, quelles que soient nos détresses, c'est que nous lui fassions confiance. C'est que nous mettions notre foi en lui à l'exclusion de toute autre chose ou de toute personne. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, c'est le minimum, et qu'il est le rémunérateur de ceux, tout simplement, qui le cherchent. Nous le cherchons. Pierre cherchait Jésus dans la tempête, dans le désordre. Il l'a trouvé. C'est Jésus qui est venu vers Pierre. C'est pas Pierre qui est venu vers Jésus. Il l'a trouvé. Mais Pierre a fait montre de foi, même s'il y a eu cet écart avec les doutes, avec le doute. Et puis ce texte, courons avec persévérance. Marchons sur les eaux. Ce qui nous est pas familier, ce qui nous est pas habituel, ce qui est antinaturel parfois dans certains cas. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux, les regards sur Jésus, celui qui suscite la foi. Parce qu'à chaque pas que nous allons faire avec lui, à chaque prière que nous allons faire avec confiance, eh bien notre foi va se renforcer Et plus nous allons aller, plus nous allons grandir, et plus nous allons découvrir cette belle aventure où le Seigneur est avec nous. Il n'est pas contre nous pour nous délivrer. Les yeux fixés sur Jésus et le cœur assuré. Toute aventure de la vie, toute expérience, toute épreuve, toute tribulation, toute affliction que nous pouvons connaître en tant qu'homme ici-bas, se résume à travers le dernier verset, et ils montèrent dans la barque avec Jésus. Ils avaient Jésus dans leur barque. Il n'était plus tout seul. Et le vent, c'est ça. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous apporte le repos. C'est lui qui fait que nos pensées ne sont plus agitées, que nos nuits ne sont plus là des cauchemars, hein, en essayant de trouver d'hypothétiques solutions. Le vent, c'est ça. C'était bien dit par l'apôtre Paul quand il écrira « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Est-ce que ce n'est pas cela ce que nous avons très souvent besoin ? Que nos cœurs et nos pensées soient gardés en Jésus, dans la paix, dans le repos ? C'est ça naturellement. Alors ils sont montés, et le vent a cessé, et ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus. C'est le but et le sens ? Oui. Si nous vous parlons comme ça, et si nous acquiesçons à ce message évangélique, les uns et les autres, c'est qu'un jour, nous avons fait cette expérience, non pas de marcher sur la mer, mais une expérience d'une nature ou d'une autre, où nous avons véritablement vu Jésus venir à notre secours. Et nous l'avons découvert comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, et depuis, nous l'adorons. Adorons, c'est lui rendre hommage, c'est lui apporter le témoignage de notre foi qui reconnaît ce qu'il fait et qui reconnaît surtout ce qu'il est. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement, eh bien, l'envoyé de Dieu, Jésus Sauveur. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce. Et puis, nous allons garder ses paroles. Et moi, je souhaite, et nous allons prier, pour que Dieu vous remémore dans votre situation, dans vos difficultés, eh bien, ces paroles. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole. Elle est merveilleuse. Mais elle est faite pour tous les hommes qui veulent bien, Seigneur, se prêter à entendre, à écouter, et qui veulent bien, Seigneur, peut-être sortir de leur barque. Alors que c'est une barque qui coule, leur vie, leur existence est en naufrage, eh bien, lorsque tu nous dis viens, lorsque tu nous appelles à venir à toi, même si quelquefois nous marchons mal assurés, même si parfois nous tremblons, même si parfois les vagues nous submergent, les flots nous enveloppent, mais nous savons, Seigneur, que tant que nous aurons les regards fixés sur toi, nous marcherons et nous serons vainqueurs et nous triompherons, en effet, de tout le mal, de toute difficulté et de toute chose que nous ne comprenons pas encore, mais qui nous sera révélée à un moment ou un autre, lorsque nous aurons vraiment réalisé que c'est toi notre délivrance, c'est toi qui nous libère, c'est toi qui sauve nos vies et qui nous amène, Seigneur, tout simplement, à déclarer, c'est vrai devant le monde entier, que tu es véritablement le Fils de Dieu, Jésus, et nous voulons tout simplement comprendre que le but ultime de tout cela, c'est que nous t'adorons sur la terre, parce que nous t'adorerons au ciel pour l'éternité. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.